7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires.
Et bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le plan hôpital est présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron. L'urgence est de lutter contre les déserts médicaux. Pour cela, 400 généralistes salariés vont être envoyés dans les territoires prioritaires sur la base du volontariat. Pourquoi avoir privilégié la base du volontariat alors que beaucoup disent que ça ne marche pas et qu'il faut des mesures de coercition?
Parce qu'il faut partir de la demande des médecins, de comprendre ce dont les médecins aujourd'hui ont envie. Bon, il s'avère qu'à titre personnel, par exemple, j'ai un petit frère et une petite sœur qui sortent d'internat. Bah, quand vous discutez avec eux aujourd'hui, ils vous disent qu'ils veulent s'inscrire dans des parcours de soins. Ils veulent pouvoir avoir accès à des structures qui ne les laissent pas seuls, qui les accueillent. Et donc, pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, moi je ne crois pas du tout à forcer ces jeunes médecins à aller tout seuls dans tel ou tel territoire.
Oui, sauf que le volontariat, ça ne marche pas.
Si, ce qu'il faut faire, c'est recréer des véritables hôpitaux de proximité. Il faut recréer, en fait, il faut remettre l'humain et le parcours de soins au centre de tout. Quand vous recréez des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire que vous dites, bah, tel et tel acte de soins, acte de médecine, doivent être au plus proche de l'ensemble de nos concitoyens. Mais en même temps, que vous gérez, que vous interconnectez ces hôpitaux de proximité avec les médecins libéraux, avec les plus gros hôpitaux de ville. À ce moment-là, vous réussissez à recréer cette dynamique. Mmh. Moi, vous savez, je suis sur le terrain une à deux fois par semaine. Je le constate, ce désert médical. Il est insupportable pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mais on a combien d'histoires où c'est la galère, vous luttez pour pouvoir emmener l'un de vos enfants dans un hôpital? Eh ben, il n'y a aucune fatalité à ça. Il y a énormément de dispositifs qui existent sur le territoire. J'en ai visité des maisons de santé, des maisons de soins, des hôpitaux de proximité. Ça marche. Il faut remettre le parcours de soins au centre de tout. Et c'est ce que fait Agnès Buzyn avec ce plan santé très important qui sera annoncé tout à l'heure.
Donc il y a le plan hôpital aujourd'hui. Il y a eu le plan pauvreté la semaine dernière. Les associations ont globalement salué des avancées, sauf sur le logement. Votre secteur, qui semble-t-il a été oublié, manque d'ambition, dit la Fondation Abbé Pierre. Rien de neuf, dit l'association Droit au Logement. Vous aviez promis, notamment après le drame d'Aubervilliers en août dernier, de taper les marchands de sommeil au portefeuille. On est un mois après. Qu'est-ce que vous avez fait?
La Fondation Abbé Pierre, que je salue, je travaille vraiment main dans la main avec eux. Elle sait très bien tout ce que nous faisons.
Donc, les critiques bien, mais elle a quand même fait une tribune il y a deux jours dans Le Monde pour dire que c'est pas assez.
Je l'ai vu, mais les critiques sont parfois un peu faciles. Et encore une fois, je travaille de manière très constructive avec eux. La Fondation Abbé Pierre, à juste titre, essaye de sonner la sirène d'alarme sur la lutte contre ce qu'on appelle les marchands de sommeil, qui sont des trafiquants de misère, qui sont des personnes qui exploitent la misère de certains de nos concitoyens. Mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tape ces marchands de sommeil là où ça fait véritablement mal.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis Aubervilliers?
On est en train, elle devrait être adoptée dans les tout prochains jours, de passer une loi qui s'appelle la loi logement. Par cette loi, les marchands de sommeil vont être considérés comme des trafiquants de drogue. Moi, je leur déclare la guerre à ces marchands de sommeil. Je lutterai sans relâche, sans merci. Et donc, très concrètement, par la loi, on va pouvoir leur confisquer des biens, on va pouvoir les taper au portefeuille, comme on le fait avec les trafiquants de drogue, et on va pouvoir éviter qu'ils puissent réacquérir des biens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi de la jungle. Vous êtes un marchand de sommeil, vous vous faites choper, mais deux secondes après, vous avez la possibilité de réacheter de nouveaux biens immobiliers. Tout ça par la loi, mais qui sera adopté dans les prochaines semaines, ce sera terminé.
Julien de Normandie, à votre place hier, il y avait Jean-Michel Blanquer qui nous a annoncé, confirmé que 1800 postes seraient supprimés dans l'éducation nationale. Et chez vous, il y en a combien?
En 2017, l'année dernière, il y a eu un peu moins de 200 postes qui ont été supprimés. Mais vous savez,
non,
moi,
en 2019, dans la loi qui arrive.
Moi, j'ai un ministère qui, dont l'ensemble de ses fonctionnaires sont surtout sur le terrain. Et on est en train d'étudier la réforme territoriale. On finalisera les remontées de terrain d'ici la fin du mois d'octobre. Donc on va faire les choses dans le bon ordre.
Donc il n'y aura pas de suppression de
postes. On va faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on va identifier les missions faites sur le terrain, on va voir si notre dispositif est adapté, et en fonction, on déterminera le nombre de suppressions de postes. Mais vous savez, on ne fait pas des suppressions de postes pour faire des suppressions de postes. On fait des suppressions de postes parce que, un, on doit limiter la dépense publique, et vous nous le reprocherez, et les Français nous le reprocheraient si on ne le faisait pas. Et en même temps, il faut partir des missions. Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui est mal fait? Et en fonction de ça, vous déterminez le nombre de suppressions de postes.
Gérard Collomb annonce sa candidature à Lyon, au municipal de 2020. Il l'annonce ce matin dans l'Express et il annonce aussi qu'il va quitter le gouvernement après les européennes. Il va vous manquer?
À titre personnel, oui. Moi, je le connais depuis longtemps, j'ai fait toute la campagne avec lui. Gérard Collomb a une décision personnelle, mais il ne l'a jamais cachée. Cette décision, il l'avait déjà évoquée d'ailleurs dans les journaux locaux. Gérard Collomb est profondément, viscéralement attaché à la mairie de Lyon, et donc il fait ce choix. À titre personnel, oui, il me manquera.
La règle est dictée par Emmanuel Macron, c'est que quand on est candidat, il faut quitter le gouvernement immédiatement ou...
Je ne sais pas s'il y a une règle. Ce qui est sûr, c'est que... Vous avez une priorité qui est de mener à bien l'action du gouvernement. Et donc, dès lors que cela n'est pas compatible avec mener une campagne au municipal, je trouve ça tout à fait logique de quitter le gouvernement.
Christophe Castaner a été prié de remballer sa proposition de toucher au droit de succession. Dimanche, il a proposé une réflexion sans tabou sur le sujet. Le lendemain, Emmanuel Macron a formellement exclu dans un communiqué, dans une formule lapidaire, toute modification des droits de succession sous sa présidence. Il s'était pas parlé avant ?
Ouais, il faut leur demander. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne modifiera pas les droits de succession. Ça, je vous le confirme, on ne les modifiera pas.
Oui, mais alors pourquoi Christophe Castaner a dit pourquoi pas, réfléchissons.
Parce que Christophe Castaner, il est, ça ne vous aura pas échappé, chef d'un mouvement politique qui est en marche.
Il s'avère que... Il est aussi ministre, non?
Mais il s'avère qu'on a beaucoup d'adhérents et que ces adhérents, ils font des propositions. Ces propositions, il est tout à fait normal que le chef de ce mouvement politique, il les transmette, il les relaie. Il l'a fait sur les droits de succession, il a fait d'autres propositions, par exemple, dans le secteur du logement. Donc ceci est tout à fait normal.
C'est pas un recadrage.
Non, c'est pas un recadrage. Vous savez, chacun dans son rôle. Christophe Castaner fait des propositions qui émanent du mouvement. Le président de la République, il fixe le cap. La politique, c'est choisir. Mais on a fait un choix très clair, c'est qu'on ne modifiera pas les droits de succession.
La députée Frédérique Dumas a quitté le groupe La République En Marche hier, dénonçant le manque de discussion, le manque d'écoute, le caporalisme dans le groupe et le fait du prince. On est sur le Titanic, a-t-elle dit. Vous entendez la critique ?
Il faut toujours entendre les critiques, mais là, très sincèrement, la critique est extrêmement excessive. Vous savez, vous avez cette députée qui prend la position que vous venez de rappeler, au même moment où vous avez plus de 8 députés qui représentent des positions et des positionnements différents, qui postulent pour être à la tête du groupe parlementaire En Marche. Donc vous voyez bien que le débat au sein du groupe majoritaire, il existe, il est là. Donc, très
vous n'entendez pas le malaise qui remonte de vos collègues de La République En Marche? On a l'impression que les marcheurs, un an après, ont perdu la voix, ont perdu le cap, ont perdu la flamme.
Mais vous savez, moi, je vous invite avec moi sur le terrain j'étais hier soir à Clichy-la-Garenne pour une réunion avec les adhérents d'En Marche. Vraiment, on n'arrête pas de me dire, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus personne. Mais on était plus de 200 qui étaient à Clichy-la-Garenne.
Donc, il n'y a pas de problème.
Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Tous les remontées, les impatiences, il faut les entendre. Mais il faut avoir raison gardée. Le mouvement La République En Marche est un mouvement qui est dynamique, qui a gardé son cap, qui a gardé ses valeurs. Et encore une fois, hier à Clichy-la-Garenne, nous étions plus de 200 autour de ce projet politique que nous portons.
Une dernière question, et au-delà de la polémique sur la petite phrase d'Emmanuel Macron avec le chômeur, au-delà de la politique politicienne, le monde de Macron, est-ce que c'est quand on est horticulteur, quand on a un diplôme et qu'on ne trouve pas de travail, on doit se résigner à aller faire la plonge dans un restaurant? Est-ce que c'est ça l'idéal de société?
Mais c'est pas du tout ça, mais moi je vais vous dire deux choses. Le premier, c'est que c'est quelque chose qui me rend dingue. Je suis tous les jours sur le terrain, je rencontre des dizaines de chefs d'entreprise qui me disent on n'arrive pas à embaucher des jeunes. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes qui cherchent des emplois. Puis le deuxième point, on a dit, le président de la République, il a eu des propos qui étaient méprisants. Mais très sincèrement, il est où le mépris? Il est dans les propos du président de la République ou dans les propos des oppositions qui, depuis des décennies, n'ont pas réglé ce problème, qui est le problème de l'orientation et de la formation? Comment aujourd'hui, un jeune de 25 ans qui sort d'études, qui veut bosser, n'a pas la capacité?
Julien de Normandie était notre invité. Merci à vous et belle journée.
Merci Léa, à tout à l'heure.